La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu ce matin, où nous sommes réunis ensemble pour nous ouvrir à la présence de Dieu dans nos vies, pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible et pour lui rendre grâce pour les vies qu'il nous donne. Bienvenue à vous tous qui êtes aussi en ligne maintenant et qui nous rejoignez par ce moyen Internet. Peut-être attendez-vous depuis plus d'une heure que le culte commence si vous vous êtes trompé d'heure ce matin, mais nous n'étions pas en retard. Voilà. Nous sommes aujourd'hui rassemblés dans une fête anniversaire, puisque c'est la fête de la Réformation aujourd'hui. Pour beaucoup de familles composées de protestants et de catholiques, ce week-end est aussi un moment important où chacun se souvient des êtres chers qui ont quitté cette vie. Prenant en compte la peine des familles endeuillées et sans oublier que nous n'avons pas à obtenir par notre prière quoi que ce soit pour les défunts, puisque nous sommes convaincus qu'ils sont dans la grâce de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Et nous rendrons grâce à Dieu particulièrement au moment de la prière du Notre Père pour la vie de celles et ceux qui sont décédés entre novembre 2020 et aujourd'hui, et qui étaient liés à l'oratoire du Louvre directement ou indirectement par leurs proches. Leurs noms seront lus ce matin, et c'est important pour nous de donner ce gage de soutien et d'amitié aux familles endeuillées. Nous nous réunissons maintenant dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré dans le psautier français. Au début du psautier, vous trouvez donc le premier répond. Et c'est David Cassan ce matin qui est avec nous à l'orgue et nous le remercions d'être ici pour accompagner ce culte. Et nous louons le Seigneur avec la louange écrite par le pasteur Charles Wagner. Dieu se fait homme. Je ne peux te penser qu'avec des moyens humains, lors même que je ne te verrai pas en esprit, sous une forme mortelle et semblable à celle de mes frères. Et si tu veux t'approcher de moi, ne faut-il pas que tu descendes au sentier de la terre ? Pour me parler, ne dois-tu pas employer les termes de ma langue maternelle ? Autrement, qui te comprendrait ? Puisque l'homme est un muet et un sourd pour son propre semblable, s'il n'en saisit pas le langage. C'est pour cela que tu t'es fait homme et que tu as marché parmi nous sous les traits du Fils de l'homme. En somme, depuis que tu nous cherches, tu emploies les mêmes moyens. Tu viens à nous. Tu es venu vers nous par les créations matérielles, les splendeurs et la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la vie familiale, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères aînés. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous, à travers nos jours éphémères, a transparu ton sourire qui demeure, et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage où fermente un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs, tombés pour des causes justes, brillent des rayons d'or. Dans chaque regard d'enfant, tu as mis ta promesse, et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Sois béni, Dieu qui te fait homme pour être plus près de nous, comme dans les épis mûris sous ses caresses, ton soleil se fait pain afin de nous nourrir. Amen. Nous louons le Seigneur avec le psaume 42. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons devant Dieu. Seigneur Jésus-Christ, j'ai souvent été impatient. Je voulais tout abandonner. Je voulais céder à la souffrance. Je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Toi, tu n'as jamais perdu patience. Tu as supporté toute une vie et tu as souffert pour me sauver, moi aussi. Je t'apporte ma peine. Mets en moi la joie. Je t'apporte ma solitude, mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits, mets en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs, fais germer en moi ton avenir. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour recevoir la grâce renouvelée sur nos vies. Pardon, je vous invite à vous lever, bien sûr. En tout cas, vous écoutez bien, parce que... Seigneur, Dieu renouvelle sur nous sa grâce, et heureusement. Et il nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ta foi t'a sauvé, avance en paix. Et ce matin, nous confesserons notre foi avec les mots de la confession de foi des remontrants des Pays-Bas. Et nous saluons d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent des Pays-Bas et qui sont avec nous. Voilà ce que nous pensons et croyons. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu'ils louent et servent Dieu, en chantant et en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme empli de l'Esprit. Il est le visage de Dieu qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié. Mais il vit au-delà de sa propre mort, et de notre mort. Il est, pour nous, un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu, l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faible et vulnérable, nous nous croyons appelés, solidaires avec le Christ et avec tous ceux qui croient, à former une Église qui soit signe d'espérance, car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur dans le temps et dans l'éternité. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, je partage avec vous un proverbe, ce livre des proverbes magnifique et si peu entendu. En fait, dans les églises, il me semble que ce proverbe numéro 30, au verset 18 à 19, a quelque chose à nous apprendre sur nos vies. Il y a trois choses étonnantes qui me dépassent, quatre que je ne connais pas. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du bateau au cœur de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Je vous invite à chanter le cantique 372, les strophes 1 et 2. Et nous nous levons. Nous prions ensemble. Éternel, dans cette Bible offerte à la lecture de tous par la réforme protestante, nous allons lire les mots qui ont inspiré la foi de ceux qui ont édifié nos communautés. Donne-nous aujourd'hui cet esprit qui interroge les mots tracés dans la Bible. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la réforme. Et garde-nous des certitudes qui ont pu parfois les éloigner de toi. Amen. Les trois choses étonnantes qui dépassent le sage dans ce proverbe numérique sont des traces immatérielles, des traces dont l'intelligence imagine l'existence alors qu'il est impossible de les appréhender par les sens. L'aigle passe dans le ciel et son chemin reste imprimé dans la mémoire. Mais la matière du ciel ne permet aucune empreinte de son passage. Le serpent glisse sur le rocher, mais bientôt son passage ne sera plus qu'un souvenir, peut-être effrayant, pour celui qui l'a vu passer. Et même le sillon ouvert dans la mer au passage du bateau se referme sans laisser aucun chemin derrière lui. Que dire alors de la trace de l'homme chez la jeune fille ? Indélébile et pourtant invisible pour qui ignore son intimité. La profondeur de ce proverbe nous conduit aux confins de la mémoire, à la recherche des empreintes que le mouvement de la vie laisse, sans pourtant marquer de son empreinte quelque matière concrète. Quelles sont les traces que laissent nos vies dans ce monde? C'est la question que m'a inspirée la date d'aujourd'hui, anniversaire de la Réformation et veille d'une fête que Martin Luther fêtait sans doute quand il était encore moine et que nombre de nos concitoyens ont gardé dans leur culture, qu'ils soient confessants ou non d'ailleurs, la fête de tous les saints. Les deux dates ont un rapport direct avec la conception que nous nous faisons de la mort et de la vie après la mort. En effet, si l'on n'avait pas cherché à vendre des indulgences pour le salut des âmes des défunts, sans doute la réforme n'aurait-elle pas eu les mêmes ressorts. Le théologien Philippe Mélenchon affirme en 1546 que Martin Luther écrivit ses thèses sur les indulgences et les afficha sur l'église de tous les saints le 31 octobre 1517. Cet événement est alors considéré comme marquant le début de la réforme protestante. On a contesté cette déclaration parce que Mélenchon n'en était pas le témoin direct. Mais comme il n'était pas rare à cette époque qu'on affiche les thèses des disputes théologiques sur la porte de l'église du château de la ville, la chose reste très probable. Dans ses 95 thèses, le moine Augustin Martin Luther contestait les pratiques du clergé catholique de son temps et allait jusqu'à écrire « Pourquoi le pape, dont la richesse dépasse aujourd'hui celle du plus riche Crésus, construit-il la basilique Saint-Pierre avec l'argent des pauvres croyants plutôt qu'avec le sien ?» Montrant ainsi que les indulgences n'étaient qu'un prétexte pour construire à grands frais la nouvelle basilique et qu'on manipulait ainsi la peur des fidèles pour remplir le trésor de l'Église. Placarder une telle contestation sur l'Église de tous les saints un 31 octobre retentissait comme un véritable blasphème à l'égard d'une Église qui se prévalait du salut des âmes et comme une déclaration de guerre à l'égard d'un clergé qui comptait bien garder le pouvoir sur les consciences, en prédisant enfer et damnation à qui ne paierait pas l'impôt sur le ciel. On peut se dire que ces choses-là ne sont plus de notre siècle, et que la peur de l'après-mort n'est plus du tout le problème de nos églises, surtout en régime protestant où la grâce permet d'affirmer la vie éternelle contre toutes sortes de morts. Bien qu'il reste encore quelques oiseaux de mauvais augure qui prêchent l'enfer et la damnation, même en régime protestant, substituant leur morale à l'évangile, on peut considérer qu'en effet, la question de la mort a été déplacée dans nos théologies. D'un contexte de peur à celui d'une angoisse, qui n'est pas la même chose, liée à une recherche de signification de la vie. La question de la trace laissée par nos existences devient alors centrale quand il s'agit de parler de la mort. Dans la Bible, Il y a beaucoup de façons pour dire ce que notre langue nomme trace. Il y a le tracé d'un dessin, tahar en hébreu, comme dans Ésaïe 44, où l'on décrit comment on crée un dieu en bois ressemblant à un homme. Il y a le tracé de la gravure, kakav, comme en Ézéchiel 4, où le prophète reçoit l'ordre de graver la forme de la ville de Jérusalem dans l'argile d'une brique. Dans ces deux cas, la trace est préparatoire à l'œuvre. Elle est prophétique, presque vocationnelle. Elle appelle un ouvrage derrière elle. Mais il y a aussi, dans le vocabulaire biblique, les traces qui trahissent les actions déjà commises, avec le terme « akeb » en hébreu. Ces traces visibles qui disent ce qui s'est passé, comme celles que le prophète Osée prend pour des indices de violence quand il déclare « Galaad est une cité de malfaiteurs pleine de traces de sang ». Ces traces-là sont visibles et inscrites dans la matière comme des preuves. Elles servent d'indices pour comprendre les faits. Et puis, il y a les traces qui disent l'absence en même temps que la présence. Ces empreintes de pas dans lesquelles on met ses propres pas. Ichnos en grec. Comme dans l'Épître aux Romains où Paul parle au sens figuré de ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'avait Abraham. Ces traces-là sont autant mémoire qu'avenir. Elles rappellent l'héritage et ouvrent un chemin. Il est encore des traces qui deviennent comme les mots d'une langue, sans pourtant être des signes. Elles nous font signe. Comme ces cicatrices, stigmas, laissés par les clous du supplice dans la chair de Jésus. Stigmates dans la chair de Jésus, le crucifié et le ressuscité qui apparaît à ses disciples. Et Paul se l'approprie comme la justification de son œuvre quand il écrit « Dès lors, que personne ne me cause de tourment, car moi je porte en mon corps les stigmates de Jésus. » Ces stigmates sont comme des signes d'appartenance à une lignée spirituelle qui passe par la mort, l'absence et l'anamnèse. La mémoire placée au présent de ce qu'un homme aura transmis de lui-même. Jean, dans son évangile, en fera autre chose, comme des lettres du typographe qui imprime le texte sur le papier et le garde ainsi et garde la mémoire de la pensée. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, on peut lire en effet « Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque tupone, c'est-à-dire type, la marque des clous et la marque dans son côté, je ne le croirai jamais. » Jean utilise ici le terme de type. Empreinte signifiante, marque qui témoigne, telle une écriture, d'un salut donné contre toute mort, contre toute violence, contre tout péché. Ces traces qui rendent témoignage à l'homme Jésus, mort et pourtant éternellement vivant, ne sont-elles pas le salut lui-même ? Ne pas disparaître, ne pas être oublié, effacé, nié, n'est-ce pas la compréhension moderne du salut donné par Dieu aux hommes ? L'artiste Christian Boltanski a fait de cette angoisse de la disparition le centre de son œuvre. La mémoire prend chez lui la forme d'une accumulation d'objets, comme ces montagnes de vêtements de travail évoquant les ouvriers d'une mine aujourd'hui oubliés, ou bien ces boîtes métalliques empilées en stalagmites ou en murs, comme les tiroirs d'une salle d'archives où chaque histoire humaine aurait sa boîte. Ou encore ces voiles évanescents de son œuvre Menschlich, sur lesquels on distingue à peine le visage d'une personne décédée, et dont la photo presque effacée nous place devant la disparition et le souvenir immatériel. Christian Boltanski explique « Une des grandes questions que je pose est l'unicité de chacun de nous et notre disparition prochaine est annoncée. Au bout de 3 générations, on a totalement disparu. Dans Menschlich, les gens n'ont déjà plus rien d'autre que cette sorte d'humanité qu'ils ont eue. 15 ans après, ils sont pratiquement invisibles et volent dans l'espace. Plus tard, ils ne sont plus qu'un petit son de temps en temps. » La foi d'Abraham, celle de Moïse et de Jacob, celle de Jésus et la nôtre, ne sont devenues éternelles que par la trace à laquelle chaque génération a rendu témoignage. Ces traces, il a fallu les rechercher, les ériger au rang de tradition parfois, comme cette coupe et ce vin et ce pain que nous partagerons tout à l'heure, au nom de la mémoire due à un homme dont la trace vit en nous, comme les stigmates d'une victoire sur la mort. Quelle sera notre trace ? La trace de notre foi laissée sur la terre comme les empreintes de pas de la foi d'Abraham ? Serons-nous traces prophétiques qui annoncent et appellent à créer ce monde attendu par l'humanité comme un Martin Luther King qui rêvait en luttant ? Serons-nous traces preuves rendant compte de fautes qu'il ne faut pas oublier sous peine d'y laisser notre humanité comme une Beate Klarsfeld qui déposait un jour l'empreinte de sa main sur la joue d'un nazi ? Serons-nous traces esthétiques comme un Christian Boltanski qui aide à penser la mémoire ? Serons-nous traces typographiques comme un Martin Luther qui diffusa ses idées réformatrices dans une Europe apeurée par la mort ? La vocation de notre vie, c'est cet appel à tracer un chemin sur cette terre. Comme l'aigle dans le ciel, le serpent sur le rocher, comme le navire au cœur de la mer, comme le vestige de la trace d'un homme chez une jeune fille. Cette trace est immatérielle, et pourtant elle dessine un chemin, une trajectoire, un temps qui aura été notre temps, un espace que nous aurons habité. À nous de dessiner notre trace et de faire de notre vie un témoignage et un objet de témoignage. La grâce de Dieu nous donne cette liberté. À nous de devenir trace de cette grâce. Nos vies laisseront une trace et si les générations suivantes oublient petit à petit ce que nous aurons été, ce que nous aurons pensé, ce que nous aurons fait, nos vies resteront tracées dans la paume de la main de Dieu, comme les stigmates de finitude dans son éternité, signe d'une humanité sauvée. Amen. Je vous invite à prendre dans les louanges et prières le cantique 400, en espérant que je ne me sois pas trompée de mélodie. David, on va voir ça tout de suite pour ce cantique. Parce qu'il y a deux versions, voilà. C'est bien. Voilà, je vous invite à vous asseoir, etc. Et je vais maintenant appeler la personne qui va nous partager les annonces. Voilà, c'est Juliette qui est avec nous ce matin. Juliette, notre trésorière, qui va partager les annonces.
Merci. Merci Béatrice. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, deux sujets pour les annonces. D'abord, le programme et nos activités à venir, et puis un petit point financier. Alors, évidemment, tous les détails se trouvent dans notre site internet, oratoiredelouvre.fr. Mais voici l'essentiel du programme à venir. Mardi, c'est le premier mardi du mois. Et donc, Béatrice, ici présente, vous propose un troisième culte d'intercession suivi d'un partage biblique. Jeudi, c'est la pause spirituelle, donc midi et demi, 1h30. Et puis viendra dimanche, un dimanche très particulier, puisque le culte sera conduit par Louis Pernaud, qui est pasteur à l'église protestante Unie de l'Étoile, et suivi du temps que nous appelons ici livre et spiritualité, également conduit par Béatrice, qui invitera François Vougal, qui est co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « L'évangile d'une femme », et que vous pouvez déjà... dès à présent trouvé à notre rayon librairie, puisque nous vous proposons depuis déjà quelques semaines. Alors, voilà, pour ce qui va nous arriver. Ensuite, petit sujet finance. Alors, écoutez, nous sommes le 31 octobre, c'est bientôt la fin de l'année et de l'exercice comptable. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de 92 659 euros. Pour faire face à nos engagements. Souvenez-vous, nous avions voté de manière unanime à l'Assemblée générale de la Pérole le 11 avril dernier un certain nombre d'objectifs. Et c'est bien vers cette route-là que nous engageons. Nous faisons vraiment beaucoup attention à nos dépenses. Et donc voilà la cible que nous nous donnons pour les 2 mois qui viennent, réunir la somme de 92 659 euros. Alors, pour verser vos dons, nous avons mis à votre disposition de nombreux moyens de paiement. Vous avez le traditionnel site de l'oratoire qui vous permet de payer par carte bancaire en ligne. Vous pouvez faire un virement directement sur le compte de la parole. Vous pouvez faire des chèques au nom de la parole. Vous pouvez donner des espèces. Mais encore, ici aussi, vous avez un terminal de paiement qui est disponible tous les dimanches. Terminal de paiement qui vous permet de payer sans contact, qui vous permet d'utiliser toutes les nouvelles moyens de paiement comme Paylib, Apple Pay, Samsung Pay, etc. Vraiment, on a acquis ce terminal de paiement puisqu'on fait des rétentions dans les dépenses grâce à un don fléché. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et expérimentez-le. Voilà, merci pour votre attention. Et puis, maintenant, vient le moment de l'offrande. Cette fois-ci, c'est anonyme. Mais merci de goûter à la joie de donner. Et très bon dimanche.
Voilà, avant d'entrer dans la liturgie de la scène, je voulais juste préciser que le culte d'intercession avec le partage biblique seront bien le 9 novembre. Donc vous avez encore un petit peu de temps, puisque là, c'est la semaine de congé scolaire, et donc nous avons préféré mettre les activités après les congés. Mais il y aura bien la pause spirituelle cette semaine, jeudi midi. Je vous invite à entrer dans ce temps de partage de la scène. Et nous louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et en tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube d'un règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant des siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom. Et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze et pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour nos églises, nos communautés, nos institutions. Permets que nous soyons toujours attentifs à nous réformer sans cesse. Et que nous ne perdions pas de vue la visée de la réforme. Aide-nous à avoir le courage de remettre notre action en question quand cela est nécessaire, pour garder vivant l'esprit de la réforme. Rappelle-nous que les traditions s'inventent et ne sont en aucun cas des fins en soi. Rappelle-nous aussi que nos églises n'existent pas pour elles-mêmes, ni pour se conserver, mais qu'elles sont là pour porter le témoignage de ton amour pour ce monde. Éternel, nous te prions pour toutes les familles qui ont perdu un être cher. Que ta présence aimante apaise la peine de ceux qui restent sans eux aujourd'hui. Chacun des noms que nous allons lire maintenant est tracé dans la paume de ta main. Donne-nous l'assurance de la résurrection de chacune de ces vies. Sylvette Minaudot-Couturier, Catherine Carbonnier, Madeleine Suzanne, Angèle Pastorello, Ania Mattei van der Marel, Jean-Pierre Grivois, Alain Fresnel, Dominique Rémy, Hélène Rachet-Hubac, Béatrix Dauteville, Edmé Reverdin, Hubert Auriol, Jeanne Doucet-Schluck, Agnès Jobard, Marie-Paul Delvedove, Colette Bunel, Éric Westphal, Claudine Houlet, Guy Caron, Daniel Darzen, Philippe Darzen, Pierre Ray, Geshe Rakoto Rijimi, Daniel Unal, Nicole Viard, Yves Christol, Caroline Gervéro, Sophie Level-Bulourde, Cyril Chantrier, Léopold François Bastot, Franck Wasson, Éric Demazur, Françoise Turquetis-Parizet, Nicole Legui, Georges Ducaire, Muriel Chabert-Marchal, Geneviève Maupin, Thérèse Mallet, Jacques Nadal, José De Brouckère, Lydie James Palade. Nous nous levons pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons ensemble le deuxième répond de la liturgie de la scène. Le pain que nous rompons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes tous invités au repas du Seigneur. Je vous invite à attendre ceux qui vont vous servir ce repas maintenant. Et quand vous aurez communié, vous pourrez donc vous asseoir. Merci. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, frères et sœurs, allez tracer votre évangile dans ce monde. Mettez l'empreinte de l'amour de Dieu partout où vous passerez. C'est ce que le Seigneur nous commande de faire dans nos vies. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous bénit et nous garde. Amen. Et nous chantons.